Écoutez, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse au chapitre 41, les 36 premiers versets. Genèse 41, 1 à 36. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le sortit en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore un autre songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu le fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'elle ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cette leçon, ce sermon aujourd'hui, « L'Éternel prépare l'ascension sociale de Joseph du cachot au palais ». C'est parce que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il s'en va. Il est en prison et à cause qu'il a donné la bonne interprétation au change du panetier et du boulanger, il n'y a plus du nom. À quelque part, à cause de ce fait-là, Joseph, il est retourné en prison. Puis ça nous dit au début, le premier verset, que ça a été 2 ans. Autrement dit, lui, il avait dit au monsieur, quand tu seras rendu, tu seras rétabli dans ta fonction, souviens-toi de moi. Et ça a pris 2 ans. Au bout de 2 ans, il ne s'était rien passé. Il faut essayer de se mettre dans la peau de Joseph, de voir que l'homme avait été plein d'ingratitude à son égard, et que lui, il n'avait vraiment aucune idée qu'il s'en allait vers une promotion sociale d'une ampleur telle qu'on n'a pas d'idée. T'es en prison, puis t'es dans la prison du roi, la prison de Pharaon, c'était la pire. C'est la prison de ses ennemis. Et il te prend là, même si Dieu avait permis qu'il recouvre une certaine confiance en lui au point, et une bonté naturelle au point que tous les gens qui étaient dans cette prison-là le reconnaissaient comme un chef, le reconnaissaient comme quelqu'un qui pouvait les aider à vivre leur vie de prison. Et là, le Seigneur est en train de préparer ce qu'on pourrait dire, un homme de prison et le monter au sommet de l'échelle sociale. Mais quand on dit au sommet, là, on n'a pas d'idée jusqu'à quel point. Pharaon, à l'époque, l'Égypte, c'était une puissance mondiale. C'était la puissance de l'époque. C'était un peu si on comparait ça aux États-Unis aujourd'hui. Prenez un gars qui est dans le fond d'une prison, puis montez-le second après le président des États-Unis. On n'a pas d'idée, là. C'est fort. Alors, Dieu est en train... Alors, Joseph, il était en prison, il devait s'attendre, il devait se dire à lui-même, je ne sais pas ce qui se passe. Il continuait d'avoir confiance en Dieu. Il continuait d'agir comme un croyant en prison. Mais il ne devait pas s'attendre à ce qu'il sortirait de là. Et là, Dieu travaille d'une façon telle qu'il y a des événements imprévus qui arrivent dans nos vies. Très intéressant, mais c'est pas juste de regarder l'histoire de Joseph là-dedans. C'est de regarder que Dieu travaille de la même façon dans nos propres vies. Des fois, on est dans le bas, et il peut nous prendre du bas et nous faire monter dans le haut avec une rapidité qu'on n'a aucune idée jusqu'à quel point ça peut être rapide. Et c'est ça qui se passe, là. Pharaon, il a un rêve, et il y avait toutes sortes de gens autour de lui qui étaient censés être capables d'interpréter les rêves, les magiciens, parce qu'à l'époque, c'était vraiment occulte. C'était, on pourrait dire, les serviteurs du démon qui étaient proches du pharaon qui donnaient des explications. Dieu permet que ces personnes-là, même s'ils entendent que Pharaon raconte, ne sont pas capables de l'expliquer. Et là, il y a le fameux qui revient, le panetier, puis il dit, moi, je me souviens que, là, 2 ans, j'étais allé en prison, puis il y a un gars qui a interprété nos rêves, et de la manière qu'ils ont interprété, il y en avait un qui était pour être tué, puis l'autre qui était pour être rétabli dans sa charge. Jamais il n'aurait cru que ces choses-là. Et là, il dit à Pharaon, bien entendu, il dit, fais-moi venir cet homme-là. Il le fait venir, et là, on va assister à la promotion sociale. Là, on a arrêté au chapitre 36, au verset 36, mais on sait que la suite, on connaît la suite, Dieu va le prendre, Et il dit, c'est bizarre parce que les derniers versets, il dit à Pharaon, trouve, il dit pas, moi je suis l'homme de la situation et je pourrais faire ce travail. Il dit, trouve-toi un homme, trouve-toi des commissaires, des gens qui vont ramasser 20%, autrement dit un cinquième de toutes les récoltes qu'il va y avoir pendant 7 ans. Ramasse ça parce que pendant les 7 autres années, la récolte, elle va être nulle. Vous allez avoir zéro. Si vous n'avez pas ramassé ça, vous creveriez toutes de faim. Mais qu'est-ce que Dieu avait dans l'esprit? C'était-tu juste de sauver le peuple des Égyptiens? C'était le peuple d'Israël que le Seigneur avait. Et on voit à travers toute l'histoire de Joseph la manière dont Dieu travaille. On parlait ce matin de la manière dont Dieu travaille. C'est vrai que Dieu travaille d'une façon assez particulière. Alors, l'auteur Philip Iveson, dans son livre, il a écrit un livre sur un commentaire sur la Genèse que j'utilise. Je trouve qu'il est très bon. C'est un réformé baptiste. Voici ce qu'il dit sur ce passage-là, le chapitre 41. Il dit, « Il existe des récits fascinants d'hommes qui, d'humble extraction, arrivèrent au sommet de l'échelle sociale. » Puis là, il dit, « L'ascension fulgurante de Joseph est cependant la plus captivante de toutes. » Autrement dit, dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui sont prises du plus bas niveau social, qui sont montés au plus haut, on a le temps de le dire, mais il dit l'histoire de Joseph, elle est particulière. Il a raison. Alors, on continue, il dit, cette histoire vraie, parce qu'elle est une partie de la parole de Dieu, rappelle que ce que l'on appelle les coups de chance sont tous inscrits dans le plan divin. Alors, vu sous un angle purement humain, les épreuves de la vie sont très décourageantes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Vous êtes assez vieux pour savoir que des fois les épreuves de la vie sont décourageantes, mais pas à peu près. Mais la vie de Joseph invite à lever le regard plus haut. Humainement parlant, il croupit en prison à cause d'injustice et d'ingratitude, et il pourrait céder à l'amertume et au cynisme. N'est-ce pas? Mais il voit sa situation selon une perspective divine. À l'époque, il ne comprend pas toutes les œuvres de Dieu. Il continue cependant de lui faire confiance et de croire que ses promesses se réaliseront en leur temps. Il faut vraiment se reculer, puis de ses propres rêves qu'il avait eus, lui qui disait que toute sa famille était pour venir se prosterner devant lui. Là, depuis le temps que tout ça s'est arrivé, il devait se dire, il devait avoir des doutes dans son esprit, quelque part. Dieu n'est jamais loin de ses pensées, comme le montre la spontanéité avec laquelle il parle de lui aux deux officiers du roi, et comme il le fera encore lors de sa première rencontre avec le pharaon. Par les dures épreuves de la vie, Dieu le forme et le prépare à la position élevée qu'il occupera et que ses propres rêves, bien que si lointains, ont présagé. Autrement dit, il est en train de se rendre compte que Dieu va travailler et va éventuellement le faire réaliser les rêves qu'il avait eus là, bien, bien des années en arrière. Alors, le texte nous fait admirer la manière de travailler du Seigneur dans la vie de son serviteur. Moi, ce que j'aime d'un texte comme celui-là, c'est une super de belle histoire. Moi, je trouve que c'est une des plus belles histoires de la Bible, Joseph. C'est vraiment une histoire extraordinaire. De voir la main souveraine de Dieu, de quelle façon il travaille. Mais je pense que la leçon à retenir pour nous quand on lit ces textes-là, c'est vraiment de s'arrêter puis de dire, est-ce que Dieu n'est pas en train de faire la même chose dans ma propre vie? Il vous arrive des épreuves, des fois, on prend l'exemple d'une personne pour laquelle on prie depuis 5 ans. Dans une épreuve qu'on pense qu'il s'en sortira jamais, tu sais, il doit être découragé, il a passé par à peu près toutes les émotions. Mais il est un croyant. Et il y a quelque chose de similaire qui se passe dans sa vie qui ressemble à celle de Joseph. Joseph, même s'il connaît ces choses-là qui sont très difficiles, il continue de faire confiance à Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire quand le Seigneur permet qu'on traverse des épreuves difficiles, longues, pénibles, lancinantes, comme on peut dire. Ça n'arrête plus, on dirait qu'on ne s'en sortira jamais. Il faut continuer de faire confiance à Dieu et dans sa sagesse, parce que les choses qu'il permet qui nous arrivent ont toutes un but. C'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. On a de la misère à nous rentrer ça dans la tête. Ça nous prend beaucoup de temps à nous rentrer ça. Je peux te le dire. Après, ça prend des décennies et des décennies. Alors, si on étudie ce passage-là et qu'on ne fait pas un parallèle avec nos propres vies, à quelque part, on manque le message essentiel du passage, qui nous montre que Dieu travaille d'une façon qu'on ne peut même pas soupçonner et qui est imprévisible. C'est ça qui est le message du texte. Est-ce que, pendant qu'il était en prison, lui, il se disait, « Ah, là, le Seigneur doit être aveugle d'intervenir. » Il devait être découragé, bien sûr. Et du jour au lendemain, il est en prison, donc une ange vient le chercher. « Hey, Pharaon veut te voir parce que tu as déjà interprété des rêves. » Et là, il veut te voir. Et à quelque part, c'est de voir aussi le texte. Il ne dit pas, je suis l'homme de la situation. Trouve-toi un homme sage et Dieu permet que Pharaon reconnaisse en lui le fameux homme sage que lui recommande. Je trouve ça extraordinaire. Et là, le Seigneur, il va lui donner le poste. Il va le mettre second après Pharaon. Et second après Pharaon, à cette époque-là, ça voulait dire que tu avais le droit de vie ou de mort sur une personne. Tu avais une puissance pas à peu près. Alors, c'est vraiment une ascension qui est préparée par un rêve. Le Seigneur va préparer l'ascension de Joseph au moyen de deux rêves qui permet que Pharaon ait. Alors, pour les Égyptiens, ils attribuaient, eux, une très grande importance aux rêves et ils avaient, comme ça dit dans le verset 8, des interprètes professionnels. C'était des magiciens, c'était des occultistes, c'était des serviteurs du malin. Est-ce que Dieu permettait que parfois le malin pouvait interpréter certains rêves, que ça pouvait avoir un certain sens, c'est possible. Mais ici, Dieu ne permet pas qu'il comprenne qu'est-ce que le pharaon est en train. Et c'était, pour le pays d'Égypte, c'était une prophétie sur 14 ans. Voici, pendant 7 ans, la terre va produire une quantité phénoménale de blé, au point, quand on lit le texte un peu plus loin, il dit qu'il arrêtait de le compter. Il y en avait tellement qu'il ne comptait même plus. Mais ramassant pendant 7 ans, 1/5, parce que quand la famine va arriver, elle va être profonde au point où que si vous n'auriez pas fait ça, il sera tout crevé, toute la gang. Mais est-ce que Dieu avait surtout le peuple d'Égypte en mémoire, dans l'idée quand il préparait ça? C'était le peuple d'Israël! C'est là où on voit la main de Dieu qui travaille sur une longue période et que tout se fait graduellement avec intelligence et sagesse. Alors, le fameux rêve, dans les versets 1 à 7, on les relira pas, mais c'est vraiment la question des vaches maigres, et des nœuds qui sont belles, et les vaches maigres et laides et décharnées, et c'est les vaches maigres qui mangent les grasses. Et après ça, il fait un autre rêve, mais cette fois-là, c'est avec des épis, et il se produit le même phénomène. Et le texte nous dit que c'est Dieu permet que Joseph, lui, non seulement il comprend le verset, mais il dit, Dieu est en train de te confirmer que qu'est-ce qu'il est en train de... Il va te l'envoyer bientôt, tu vas le recevoir. Et le 14 ans là, de prophétie que Dieu est en train de faire, non seulement c'est pour sauver le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, mais aussi le peuple d'Israël. Quand ça dit dans le verset 32, la répétition des songes exprime la certitude du dessein divin. Dessein, on peut dire décret, décision, ce qui veut dire la même chose. Dessein, décision, décret. Genèse 41, verset 32. Et quant à ce que le songe s'est reproduit deux fois pour Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de Dieu et que Dieu se hâte de l'accomplir. Autrement dit, t'es mieux de commencer tout de suite parce que tu vas avoir un problème si tu le fais pas. Quand tu as dit la chose est arrêtée de la part de Dieu, ça veut dire que le décret est là puis ça va s'accomplir. Intéressant de voir aussi que Dieu se sert des rêves de Pharaon pour amener Joseph à interpréter les rêves, mais aussi il se sert de l'impuissance des spécialistes pour interpréter. Ça dit, et sur le matin, son esprit fut agité. Ça aussi, c'est de la part de Dieu. Dieu permet, des fois tu peux avoir un rêve, mais tu n'en pas sûr. Il faudrait qu'on s'énerve toutes les fois qu'on a des rêves. Mais il y a des fois, il y a des rêves que Dieu peut mettre dans notre esprit qui ont une telle intensité qu'on dirait qu'on comprend qu'il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir nous enseigner. Et ça dit, sur le matin, son esprit était agité. Et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Pour eux, les sages d'Égypte, c'était des occultistes, c'était des serviteurs du malin. Et Pharaon leur raconta ses songes, mais il n'y eut personne qui les lui interpréta. Les magiciens, ils devaient-tu vouloir la donner? Mais quand Dieu met dans l'esprit de quelqu'un, tu ne donneras aucune explication. C'est à zéro. Alors, Pharaon ne prend pas ces genres de rêves-là à la légère et il fait venir tous les spécialistes capables d'interpréter les présages et les signes. Les magiciens et les sages sont d'une classe de prêtres qui enseignent la sagesse et sondent les mystères. Des gens qui jouent dans la magie, des gens qui jouent, dans le fond, c'est des serviteurs. On sait que l'Égypte était très fort au point de vue de tout ce qui est magie. Alors, ce sont des usurpateurs de pouvoir exclusivement divin. Autrement dit, quand les magiciens et les sages prétendent qu'ils sont capables de donner l'interprétation d'un rêve et de prédire l'avenir, c'est des usurpateurs de pouvoir divin, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire vraiment. Il y a juste Dieu qui est capable de dire, voici, moi je dis, dans 14 ans, il va avoir telle affaire, ou les choses vont arriver. Alors, le pouvoir d'interpréter avec précision des rêves prophétiques a été accordé dans l'histoire des Écritures au moins à deux personnes, à Joseph et à Daniel. Alors, Daniel aussi a eu cette chance-là. Et là, dans le verset 9 à 13, ça aurait pu arriver que les chansons disent du pas à Pharaon, ce qui m'est arrivé. Puis là, il prenait un risque aussi en disant ça. Je rappelle ma faute. Oh. Je suis pas très intelligent de dire ça à un homme comme Pharaon. Je rappelle ma faute. Alors, il dit, dans le verset 9 à 13, « Alors le grand échanson parla à Pharaon en disant, « Je vais rappeler aujourd'hui mes fautes en plus. » Pharaon se mit en colère contre ses serviteurs et me fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Alors nous fîmes, lui et moi, un songe dans une même nuit. Nous songeâmes, chacun selon la signification de son songe. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes nos songes, et il nous les interpréta. Il donna chacun une interprétation d'après son songe, et la chose arriva comme il nous l'avait interprété. Le roi me rétablit dans ma place, il fit pendre l'autre. C'est en train de dire, il m'avait dit que je reprendrais ma place, et me voici. Et il avait dit que l'autre, fait que là, sûrement que le pharaon devait se souvenir. Ah oui, c'est vrai, il y a deux ans, l'autre, on l'avait pendu. Alors, l'ascension est préparée par un rêve. La deuxième idée qu'on regarde à partir du verset 14 jusqu'au verset 24, l'ascension est aussi préparée par une rencontre. La chance qu'un homme comme Joseph puisse rentrer dans la présence de l'homme d'État le plus important de l'époque, qui se prenait presque pour un dieu. Vous essayerez aujourd'hui d'avoir un rendez-vous avec le président des États-Unis, vous allez voir que c'est du stock. Vous n'y arriverez pas, à moins qu'il lui il vous appelle. Là. Essayez de rentrer dans la présence de la personne la plus importante, une des personnes les plus importantes de la Terre. Oubliez ça. Alors lui, il était dans le fond de la prison. Les chances qu'il soit mis face à face avec le pharaon étaient presque nulles. Il ne prenait que Dieu qui était capable de l'organiser. Alors, on le dit dans versets 14 à 16 que Pharaon a fait appeler Joseph et pour eux, la barbe, pour les Hébreux, culturellement, pour eux, la barbe, c'est quelque chose qui est inacceptable. Alors, probablement que lui était un Hébreu, il avait la barbe longue, ils l'ont mis propre pour le présenter devant Pharaon. C'est intéressant que quand il dit qu'il va y donner l'interprétation des rêves, c'est que Joseph ne prend pas la gloire pour lui-même. Il dit dans le verset 16, « Et Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. » Hey. Ça prenait quand même. Tu sais, il aurait pu, là, c'est là qu'on voit le caractère de Joseph. C'est pas le genre de gars s'approprier la gloire qui appartient à Dieu. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra touchant la prospérité de Pharaon. Alors, Joseph est fidèle dans sa crainte de Dieu. Si on regarde son histoire depuis le début, depuis l'âge de 17 ans, qui est arrivé toutes sortes de choses, et il a toujours été fidèle, et il continue de l'être. Alors, il n'essaye pas de profiter de la situation pour négocier sa sortie de prison. On n'aura pas été tenté de le faire, nous autres, vous pensez? Moi, te le dire, mais en une petite condition, tu sais, en témoin. Alors, il honore grandement le Seigneur en faisant savoir à Pharaon que seul Dieu peut répondre aux questions de Pharaon concernant ces rêves-là. Alors, souvent, Pharaon, les Égyptiens le considéraient comme un dieu avec un petit dé, là, pas dé. Alors, Joseph n'a pas peur de rendre témoignage du Dieu vivant devant ceux que les Égyptiens considéraient comme un petit Dieu. Ça prenait du gosse, ça, comme on dit. Alors, Pharaon, il raconte ses rêves, il reprend les rêves, il raconte les deux rêves. Alors, les détails nous montrent que Pharaon... a vraiment une crainte, il a peur de ce qui va arriver, son esprit est agité. Et la menace que lui inspirent ces rêves-là sont provoquées par la menace est provoquée par Dieu lui-même. Pourquoi il avait l'esprit agité? Parce que Dieu voulait qu'il l'ait agité. Alors, quand il dit dans le verset 24b, « Et je l'ai dit aux magiciens, mais nul ne me l'explique. » Alors, devant toute cette gang de... Et on se souvient que c'était des hommes puissants, hein? Parce que quand on se souvient un petit peu de Moïse, quand il a fait sortir le peuple d'Égypte, il avait fait venir, il était capable de produire des serpents qui se promenaient en fer. C'était pas des deux de pique, là, les magiciens et les sages d'Égypte. C'était des serviteurs du malin. Mais quand l'Éternel dit, vous pouvez pas dire un mot, il pouvait pas dire un mot. Alors, les magiciens sont incapables d'interpréter les rêves. Et la troisième partie, c'est une ascension qui est préparée par une recommandation. Autrement dit, Joseph, après qu'il a eu interprété les rêves, il a dit quoi faire, mais il ne savait pas que la proposition qu'il faisait, la recommandation qu'il faisait, que Pharaon se retourne de bord et dit, « Ben, cherchons pas un homme sage, j'en ai un devant moi. » Alors, versets 25 à 31, Joseph répondit à Pharaon. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il va faire. Et là, il lui raconte les sept années. Et donc, Joseph fait clairement comprendre à Pharaon que les deux rêves communiquent le même message. Deuxième chose, que les sept vaches et les sept esprits, les sept épis représentent sept années. Et troisièmement, que les sept années d'abondance seront suivies par sept années d'une famine si sévère que toutes les qui vont faire oublier les années d'abondance. Quatrièmement, par la répétition du contenu des rêves, Dieu indique que le message s'accomplira certainement et bientôt. Alors, ça met la balle dans le camp de Pharaon. Il y a des décisions à prendre, puis il faut que tu les prennes maintenant. Mais lui, il ne va pas s'attendre à ce que ce soit lui, l'homme. Verset 33-36, la fameuse déclaration, recommandation de Joseph. Il dit, « Or maintenant, que Pharaon choisisse un homme entendu et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon établisse et institue des commissaires sur le pays, et qu'il prenne le cinquième du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance, et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'il amasse du froment sous la main de Pharaon, des vivres dans les villes, et qu'il les garde, et que ces vivres seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui seront au pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Intéressant hein, de voir comment Joseph a une crainte de Dieu, il a une fidélité à Dieu, il ne cherche pas à s'approprier la gloire qui appartient à Dieu. Et même, il lui donne un bon conseil, et il ne semble pas qu'il s'inclue dans les hommes sages possibles et entendus. Alors, Joseph suggère au Pharaon les mesures à prendre pour affronter la crise. Il lui conseille de choisir une personne qualifiée qui soit responsable de toute la distribution de nourriture en Égypte. Ça prenait un homme sage, ça prenait un homme honnête aussi. Il fallait qu'il ait une réputation parce que si quelqu'un avait su, « Oh, hey, il s'en vient cette année, on en met de côté, on va en vendre. » Un croche aura profité de la situation. Sa réputation d'homme honnête était déjà établie. Alors, quand il dit « Mets un homme entendu et sage à la tête du pays et que ce soit lui qui soit responsable de toute la distribution. » Et le fait qu'il soit mis en second, c'est que Pharaon lui fait une confiance aveugle. Cet homme-là, on dit à quelqu'un « Je lui laisserai mon portefeuille puis je n'aurai pas peur. » C'est exactement la même chose. Alors, il suggère que cet administrateur-là soit sage et intelligent. Et il lui recommande également, engage-toi les fonctionnaires, parce que quand ça va commencer à rentrer, même le texte un petit peu plus loin va nous dire qu'à un moment donné, au début, ils comptaient, parce qu'ils ont créé des greniers pour rassembler ça, mais il n'a eu tellement d'abondance qu'ils comptaient même plus à la fin. Il n'avait trop, ça débordait, comme on dit. Alors, il veut que ces hommes-là soient en charge de stocker un cinquième des récoltes. En termes de quantité, je n'ai aucune idée comment ça peut représenter, mais ça devait être énorme. Alors, durant laquelle toute cette abondance-là va servir durant les 7 années, et ça va être lui qui va être responsable de la donner. Il ne faut pas oublier une chose, hein, non seulement les Égyptiens se sont servis de ça, et on sait jusqu'à quel point ils sont allés. Hein. Ils ont commencé par donner ci, donner ça, amener. Ils ont été obligés de donner leurs animaux, ils ont été obligés de vendre leur terre, ils ont été obligés... Enfin, ils étaient rendus... Ils ont tout donné. Les seuls, qui, je pense, c'était les prêtres qui ont été... les prêtres égyptiens qui ont été... épargnés. Alors, Dieu possédait... Dieu permet que Joseph se mettre de l'avant, mais sans le faire vraiment. Il lui dit, ce que ça te prend, c'est un homme sage, un homme honnête, qui va être capable d'administrer tout ça pendant durant les 7 années d'abondance et aussi durant les 7 années qui vont suivre. Alors, imaginez-vous un homme qui il va le faire sortir de prison. Il va avoir des habits spéciaux en prison. Hein, ça ne va pas être des habits d'homme riche, comme on dit. Et là, il va devenir... Le deuxième après Pharaon, c'est incroyable. C'est des histoires que Dieu nous montre de quelle façon il travaille. Quand on regarde ça, il faut absolument se mettre dans la situation que Dieu va permettre des épreuves aussi dans notre vie. Et qu'on ne comprend absolument pas pourquoi il nous les envoie. Pensez-vous que Joseph comprenait ce qui se passait? durant toutes les années où ses frères l'ont vendu, qu'il a été trahi par cette femme-là qui l'a accusé de vouloir la violer, et tout ce qui est arrivé depuis quelques années. Là. Mais que quelqu'un garde le cap sur l'amour du Seigneur, sur la confiance au Seigneur. C'est ça la leçon pour nous dans ce texte-là. Dieu va envoyer à nous aussi des épreuves qu'on va avoir de la difficulté à comprendre pourquoi Dieu nous envoie ça. Mais la leçon, gardons le cap sur la fidélité de Jésus, la fidélité du Seigneur qui un jour, d'une façon que tu ne prévois même pas que ça peut arriver, c'est ça qui est arrivé à Joseph. C'est imprévisible, ça, là. Imprévisible, et le résultat, même Joseph, il n'aurait même pas pu dire, lui, là, au pire, au mieux, là, il aurait dit, t'es libéré, et il aurait été aux petits oiseaux. Mais c'est pas libéré qui était. Libéré et élevé au plus haut rang social et économique de l'époque. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Alors, la manière de travailler de Dieu est imprévisible, et on se doit de continuer à faire confiance à Dieu, peu importe le degré d'épreuve qu'il nous envoie et la sévérité des épreuves. Parce qu'il y en a qui n'ont des sévères. Moi, si je regarde ma vie venue jusqu'ici, j'en ai eu des épreuves. Mais quand je regarde d'autres personnes que je connais qui vivent des épreuves beaucoup plus intenses que moi, ben je me dis, sachons que Dieu est fidèle pour les petites épreuves comme les grandes épreuves. Alors, j'ai quatre applications à partir du texte d'aujourd'hui. La première, n'oublions jamais que toute la Bible est christocentrique. Un autre grand mot. Ça veut dire quoi, christocentrique? Christ est au centre. Dans la Bible, toute la Bible elle a la personne de Christ comme centre. Prenez l'Ancien Testament, ça parle du Christ à venir. Prenez le Nouveau Testament, ça parle du Christ venu. Toute la Bible ne parle que de Christ. Alors, le Seigneur avait promis l'envoi du Messie, Genèse 3.15, on recule loin, là. Genèse 3.15, et nous constatons qu'il utilise une multitude de moyens pour accomplir sa promesse. Et ici, un des moyens, c'est la protection de la nation d'Israël. Durant la terrible famine qui va s'abattre sur l'Égypte et sur Canaan. Voyez-vous, s'il n'y avait pas eu, Joseph aurait été mis à la tête, parce que non seulement les Égyptiens venaient pour obtenir de quoi survivre, mais les nations environnantes, eux aussi, l'avaient la famine. Et eux, ils disaient, ben, il y a du blé en Égypte, allons en acheter. Alors, ça a été le lien que Dieu a utilisé pour ramener le peuple en Égypte. Et on sait que plus tard, le peuple, après 400 ans, le Seigneur va le faire sortir. Alors, la Bible est christocentrique, première application, parce qu'on parle du Seigneur partout dans les Écritures. Deuxièmement, apprenons sur la toute-puissance et le contrôle absolu du Seigneur sur le destin de ses serviteurs, sur le destin de son peuple et sur le destin de tous les hommes. N'oublions jamais ça. Le Seigneur est au contrôle des circonstances de nos vies, dans les moindres détails, et pas juste pour les saints, tous les hommes de toutes les époques, de tous les temps. L'Éternel est un grand roi, et il règne. Ça, c'est important pour nous de se souvenir de ça. Je vais vous lire un verset qui nous en parle. 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au sépulcre et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière. Il tire l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les princes et il leur donne un héritage. En héritage un trône de gloire. Voyez-vous, ici, là, c'est quasiment du mot à mot. Il dit, il tire l'indigent du fumier. Joseph, il est à peu près là. Pour les faire asseoir avec les princes. Et tout le texte nous parle de la souveraineté de Dieu. Pour faire mourir, pour... nous parle de la richesse, il nous donne la richesse, il peut l'enlever. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur, avec nos vies. Troisième application, l'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui. Et c'est exactement ce que Joseph fait. Il s'attend à son Seigneur, malgré toutes les difficultés qu'il ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Il continue de faire confiance à Dieu. Alors nous, si on vit des épreuves, puis qu'on ne comprend rien, il ne faut pas se surprendre, c'est arrivé à bien d'autres avant nous. Alors, Lamentation, chapitre 3, versets 25 et 26. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. Et quatrièmement, le Seigneur est un grand, fidèle et glorieux consolateur. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Quel est le but de l'affliction selon le texte? Par la consolation dont nous sommes consolés de Dieu. Donc, Dieu nous console, mais il y a un but. Nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Quand on est dans l'affliction, Dieu nous prépare à ce qu'on soit capable d'aider ceux qui sont dans l'affliction. C'est-tu sage?
Oui.
C'est très sage. C'est très, très sage. Que l'Éternel soit béni, loué et exalté pour la manière sage dont il dirige nos vies. Amen.
Amen.